Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine, Univox vous emmène à Brest. Près de la moitié des étudiants renoncent à des achats alimentaires faute de moyens. Mais la précarité alimentaire s'étend bien au-delà du monde étudiant. C'est en s'intéressant à la criée de Brest que nous est venue l'idée de vous parler des initiatives brestoises et bretonnes pour lutter contre cette précarité alimentaire.
Sur les gros bateaux, on a par exemple un chalutier qui nous livre tous les mardis. Là, demain, il va livrer pour vendre mercredi.
Ronan Floch, directeur de la criée de Brest.
Après, nous, sur l'année, là, en criée, nous, on trotte à peu près 2400-2500 tonnes en tout, avec tous les poissons. Poissons, crustacés, coquillages, et on va arriver à... Cette année, on a fait une grosse année à poulpe, parce qu'on a fait 400 tonnes de poulpe. Bretagne, hein, couverture, même on a des Écossais qui nous amènent du cabillaud. Ce matin, j'avais un Anglais, là, on est en train de regarder pour faire du pétanque noir, peut-être. C'est la marchandise descend, a tendance à descendre des pays du haut, parce que c'est là que ça pêche, et ils consomment pas, et ça vient vers ici.
Lundi, c'était donc jour de vente à la criée. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, la plupart des ventes, elles se font par Internet, donc plus besoin de crier au sens propre du terme. Et l'ambiance, elle est plutôt calme, type salle de classe. Il y a quand même quelques courageux qui sont déplacés, des habitués qui se connaissent entre eux et qui aiment bien papoter, et qui utilisent une petite télécommande pour participer aux enchères. Alors dans le profil type des acheteurs, on va retrouver des poissonniers bien sûr, des marailleurs, ou encore des ostréiculteurs qui cherchent à agrandir un peu la gamme de produits qu'ils proposent à la vente. Le projecteur, il affiche sur le mur le lot qui vient d'être vendu, ainsi que son prix et la personne qui l'a gagné. C'est aussi important de noter que sur une même espèce, d'une même taille, les prix peuvent être très variants, de type 1€ de différence sur le kilo. Le poisson, lui, il est arrivé le jour ou la veille et pêché en très grande partie dans la rade de Brest.
Ouais, c'est du marailleur principalement. Marailleur, et après il y a du poissonnier. Et il y a beau avoir de l'inflation à l'extérieur, je trouve pas que ça monte. Aujourd'hui c'est cher, mais c'est pas toujours comme ça. Quoi. La vente de poissons au détail, ouais, ça a augmenté.
Ah oui, ça a beaucoup.
Je pense que ça dépend des apports surtout.
Ouais. Mais après, c'est entre. Je pense que les acheteurs intermédiaires ont pris leur marge parce que vu tout ce qui a augmenté, comme c'est l'électricité, là, ça nous plombe. Mais au niveau du prix du poisson, la lotte elle est moins chère que l'année dernière. Bon, il y a plus d'apports en lotte cette année.
Les
touches
à 350.
Ouais, mais ça n'a rien à voir.
Il y a du plomb là-dedans.
Ils sont pas bonnes, les bêtes.
Comment s'appelaient les sardines quand elles sortaient des boîtes?
Bretagne.
T'as vu? C'est ça qui est impressionnant. Hein.
Les jeux,
les mecs, ils font croire que c'est la sardine de Bretagne. Ça vient de partout.
Transformé en Bretagne.
Voilà.
Ah, okay. Voilà. Non, c'est le mot transformé.
C'est ça qui me dégoûte, quoi. Les gens, ils jouent sur l'image, parce que la Bretagne, c'est une belle image. Alors, les sardines, ouais, c'est pas vrai.
Alors, comme on l'a dit au début de ce reportage, les pêcheurs, ils sont soumis à un règlement assez strict pour tenter de, bien sûr, préserver la biodiversité de la rade. Ils sont notamment soumis à une durée légale, parce que selon les saisons ou les années, les espèces, elles peuvent avoir plus ou moins du mal à se développer. Par exemple, la Saint-Jacques, elle a connu des années moins proliférantes, dues en partie à des hivers très très froids qui l'empêchent de se reproduire. En revanche, par exemple, la pêche au poulpe, elle est beaucoup moins restreinte car le poulpe, c'est une espèce invasive. Alors la pêche bretonne, c'est beaucoup de Saint-Jacques, de Lotte, de Rouget, qui sont des espèces plutôt nobles dans l'assiette. Est-ce que ça serait dû à des restrictions?
Non, pas en rade, oui, autrement, ouais, y a des fermetures ou des ouvertures, il y a des quotas. Là, par exemple, le chinchard est interdit toute cette année, donc il n'y en a plus beaucoup, donc c'est fermé, il n'y a plus le droit de pêcher, le cabillaud, c'est pareil. Nous, en France, il y a presque plus de bateaux qui ont le droit de pêcher du cabillaud. Donc, c'est que de l'import en général qu'il y a. Il y a des niches comme ça sur la pêche bretonne où il y a vraiment des spécificités qui travaillent super bien ces produits-là. Après, c'est des produits élitistes hein, parce que ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Mmh. Mais c'est des produits qui sont bien gérés et qui a de l'avenir. On n'arrive pas dans un système embuté où il n'y a plus rien, mais il y a de l'avenir sur ces produits-là. On évolue. Bon, après, il y a eu des conneries de fait dans le passé. Mmh. Hein, voilà, c'est tout. Et puis, ça. Il reste du travail à faire encore. Après, il y a toujours, en pêche française, il y a quand même une nouvelle génération qui arrive, des jeunes qui sont assez dans ce milieu-là et ils veulent avoir une perspective.
Alors là, on m'emmène dans une chambre froide, c'est un immense hangar où il fait pas loin de 0 degré. Et c'est ici qu'on retrouve un peu toutes les caisses de poissons qui est mis en glace, il y a un peu tous les employés qui courent partout, qui rangent ça par palette en fonction des acheteurs. Et on va parler un peu là avec les acheteurs et Ronan m'a dit qu'il allait me faire déguster un peu la fameuse Saint-Jacques.
Alors c'est quoi la pépette de la rade, vous voyez? Il y a un gros rendement dedans, il y a une grosse noix,
okay, ouais.
Et après il y a du corail avec. Donc là comme je disais tout à l'heure, en achetant 5-6 kg de coquille entière, on a 1 kg de noix.
Okay, d'accord.
Comparé à d'autres qui font 10 ou 11 kg d'entière pour faire 1 kg de noix.
Après c'est un peu un produit de luxe la Saint-Jacques, non?
Ouais.
Encore ouais.
Ouais, c'est pas tous les jours. Hein. Ah. Après, on n'est pas là pour manger 1 kg par personne
non
plus.
Non.
C'est tout, il faut savoir.
C'est vrai que là, 5-6 euros le kilo, tu vas retrouver un magasin
à 10 balles, hein, facile.
Ouais, 10-15.
Et après, il y a des produits qui faut fouiller pour moi. Les gens, après, c'est vrai que c'est pas évident de se nourrir. Étudiant, ouais, encore pire, hein, mais c'est pas évident de se nourrir, mais il faut pas se voiler la face non plus. Mais moi, ce que je comprends pas, bon, après, on se fout de la gueule du monde parce que en France, si on n'est pas capable de nourrir. Étudiants pour arrêter les conneries. Pour chez moi par exemple, je vais acheter des pommes de terre, j'achète un sac de 25 kg.
Ouais,
j'ai un réseau pour en acheter, des oignons c'est pareil, tu peux acheter des carottes, t'es pas là, aller acheter. C'est ça que je comprends pas, qu'on n'est pas capable de se rassembler pour avoir des prix. Et après, les gars, on peut pas manger de la viande tout le temps, bah je sais pas, tu vas acheter un foie de génisse. Foie de génisse, ça vaut que dalle. Faut aimer quoi. C'est comme du foie de bœuf, mais c'est 10 fois moins cher.
Ok, ouais.
Tu peux avoir un morceau de foie pour 2 euros même pas.
Ok.
Du boudin. C'est pas cher le boudin.
Ouais,
voilà. C'est tout. Il y a certains. Après, faut aimer quoi.
Ouais.
Le constat que Ronan a fait a fini par réorienter mon reportage sur cette fameuse question : pourquoi bien manger, c'est si cher ? Alors on l'a vu, la criée n'est pas une solution accessible pour avoir du poisson à bas prix malheureusement. Cependant, ces groupements de producteurs et distributeurs qui se réunissent pour des prix plus abordables et livrés en grosse quantité auprès des particuliers, c'est une initiative qui existe déjà, notamment en Bretagne, dans le Finistère.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans la ville de Brest, ça peut peut-être intéresser les étudiants, mais il y a pas mal de centres sociaux qui ont mis en place des cabas des champs. Et donc là, pareil, c'est des groupements d'achat directement auprès des producteurs. Alors la commande est passée une fois dans le mois et c'est livré, je crois, une ou deux, ça doit être livré une semaine après, je pense. Donc là, c'est pareil, c'est de l'achat direct aux producteurs, donc on a des tarifs avantageux. Et après, donc ça va être pour les produits qu'on va trouver en local. Et pour tous les produits qui vont venir d'un peu plus loin, comme les légumes secs, les céréales, les pâtes, etc. Ça, vous pouvez contacter VRAC 29.
VRAC 29
Oui, VRAC 29. Okay. Qui a, alors ça veut dire vers un réseau d'achat en commun. Donc c'est national et ça a été créé dans le Finistère il y a quelques années. Et là, c'est pareil, on peut acheter du coup ses lentilles, ses pâtes en commun à des prix avantageux.
Celle que vous venez d'entendre, c'est Marion. Elle travaille à la Maison de l'agriculture biologique du Finistère, la MAB 29. Et avec cette association, elle mène un véritable combat pour le mieux manger, spécifiquement autour de l'agriculture biologique. La Maison de l'agriculture biologique, on la retrouve dans plusieurs régions et départements, et elle s'associe à beaucoup d'autres associations et structures pour proposer de nombreuses solutions accessibles à tous. Et donc, dans ce cadre, beaucoup d'actions sont organisées, notamment avec des soutiens locaux.
Donc nous, on a une action autour de l'alimentation qui s'appelle Atelier Alimentation du Champ à l'Assiette. Alors, en fait, c'est inspiré d'un projet national qui est porté par notre réseau, qui s'appelle Défi Foyer à Alimentation Positive. Là, l'idée, ça va être d'accompagner un groupe de personnes ou plusieurs groupes de personnes sur une période de 6 à 8 mois avec des ateliers autour de l'alimentation. Donc, l'idée, ça va être d'avoir des visites de ferme pour refaire le lien avec l'origine des produits qui arrivent dans notre assiette. Et ensuite, de faire toute une série d'ateliers autour de la cuisine, autour de la nutrition, de creuser un peu plus cette thématique de l'alimentation pour un groupe d'une dizaine de personnes en général. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu les évolutions que les gens vont pouvoir apporter petit à petit à leur alimentation avec ces notions qu'on va leur apporter durant ces 6 à 8 mois.
D'accord. Et alors, comment est née l'idée de ce projet? Enfin, est-ce que tu es parti d'un constat personnel ou est-ce que vous êtes réunis autour de la table? Comment ça s'est passé finalement?
Alors, ce projet-là, initialement, donc les défis foyers alimentation positive, ils sont nés en 2012 en région Rhône-Alpes. Et donc, c'était inspiré des autres défis. Il y avait des défis à énergie positive à l'époque. Et on a voulu transposer ça au niveau alimentaire. Et donc, ensuite, en Bretagne, c'est apparu en 2014, si je dis pas de bêtises. Et nous, dans le Finistère, le premier défi avait eu lieu en 2018 à Brest. Et donc, nous, l'idée, c'était aussi de montrer que on pouvait manger mieux, même avec peu de moyens, en fait. Donc, on s'est appuyé sur des structures des quartiers prioritaires de la ville de Brest, donc des centres sociaux, des structures qui accompagnaient des personnes en situation de handicap. Voilà, l'idée, c'était de montrer que même si on avait peu de moyens, on pouvait petit à petit apporter des changements à son alimentation qui soient à la fois bons pour notre santé, bons pour l'environnement et bons pour son porte-monnaie.
Ok, et est-ce que vous avez vu que c'est une structure qui me semble assez grande, est-ce que vous avez un soutien, que ce soit financier ou autre, national, pour arriver à ces actions?
Alors, on n'a pas de soutien financier national, on va chacun trouver des financements en local. Donc, il va y avoir plusieurs régions de France hein, dans lesquelles ce projet est organisé, mais chacun cherche. Voilà, au début, on avait eu des financements de l'Agence régionale de la santé. Et après, au niveau de Brest, c'est plutôt Brest Métropole et le contrat de ville et le développement social urbain de la ville de Brest qui vont financer ce projet.
D'accord. Et je reviens sur ce que tu me disais un peu juste avant l'interview. Tu me parlais de structures avec lesquelles la Maison de l'agriculture biologique du Finistère travaille. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ces structures?
Oui, donc en fait, nous, on essaye aussi de travailler à destination des personnes qui n'ont pas forcément le choix de leur alimentation. Parce que dans les défis et les ateliers alimentation que j'évoquais avant, c'est plutôt des personnes qui ont une petite marge de manœuvre, au moins financière, au début, pour se dire, bah oui, j'ai cette possibilité de changer un peu mon alimentation. Et là, voilà, on essaye aussi d'aller vers les personnes qui n'ont pas forcément le choix de leur alimentation. Donc là, je pense notamment aux personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire. Ouais. L'idée, c'est que voilà, tout le monde, normalement, devrait avoir le droit de manger bien, de manger des aliments qui soient de qualité pour leur santé et pour l'environnement. Donc on essaye aussi on a commencé un peu à créer des choses avec des structures d'aide alimentaire, donc comme le Secours Populaire. Il y a eu d'ailleurs deux distributions déjà de paniers de produits bio aux étudiants les deux dernières années. On a essayé de créer du lien aussi avec l'association Coup de Pouce. Là, on avait fait une formation à destination de différentes associations pour qu'ils puissent se saisir en fait de la question de l'alimentation et accompagner un petit peu les personnes qui reçoivent vers une alimentation qui soit bonne pour sa santé. Et donc là, cette association, c'est intéressant, ils vont faire des ramasses dans les supermarchés, faire du glanage sur les fermes, et après ils cuisinent et ils distribuent des repas aux étudiants. Et pareil, il existe sur le campus aussi l'Agorae, du coup l'épicerie sociale étudiante, avec qui on aimerait aussi mettre des choses en place. L'idée, c'est de faire en sorte que l'aide alimentaire arrête d'être une variable d'ajustement de la surproduction industrielle. Dans l'idéal, voilà, nous, on aimerait que des terres bio soient mises en production à destination de l'aide alimentaire, avec éventuellement des projets autour de ça pour cuisiner ensemble des produits bruts avec les bénévoles des assos d'aide alimentaire. Éventuellement aussi transformer des surplus en conserve pour que ça puisse se garder plus longtemps. Voilà, il y a plein de choses à construire et il y a un peu des réflexions qui sont en cours là-dessus sur Brest, mais voilà, il y a des choses à faire.
Parmi ces autres structures qui permettent de rendre accessible le fait de manger sain à des plus petits budgets, qui ne se penchent pas forcément sur la question manque de moyens, on peut notamment citer les épiceries solidaires. Elles travaillent souvent en lien avec la Croix-Rouge ou le Secours Populaire. Seule différence, elle fonctionne par inscription. On en retrouve notamment à l'université les épiceries Agorae présentes à Paris, Caen, Toulouse, Marseille, Angers et bien d'autres, mais elles existent aussi pour les non-étudiants dans les quartiers populaires, comme l'exemple de l'épicerie solidaire du Quisac au quartier de Bellevue à Brest.
En fait, l'association s'appelle l'épicerie solidaire en réseau, donc déjà ça veut tout dire. Et puis dans cette association, déjà on a plusieurs structures. Donc ça a été créé donc, par le Secours catholique, la Croix-Rouge, l'AGEB à l'origine, la SPAB. Il y a maintenant la HALT aussi, qui est un accueil de jour à Brest. Il y a la FEDB, je disais tout à l'heure, et puis Finistera du réseau Biocop. Donc, ça nous fait déjà un bon réseau. Oui. Et après, on travaille beaucoup avec le CCAS de Brest, qui met en relation toutes les structures d'aide alimentaire, de solidarité. Et donc, ça nous permet vraiment de travailler sur plein de sujets différents. Il y a plein d'épiceries en France. Et nous, on fait partie du réseau national UGES. C'est l'Union des groupements des épiceries sociales et solidaires. Alors, pour l'instant, on est les seuls en Bretagne dans ce réseau-là, puisqu'il y a un autre réseau concurrent, on va dire. Mais nous, donc voilà, on est réseau UGES, on est à la vice-présidence de ce réseau-là. Et on essaye de développer ce réseau aussi au niveau local. Et dans ce cadre-là, on travaille sur un projet de justice alimentaire où, en fait, on a vu qu'il y avait dans certains territoires, comme à Montpellier, une caisse commune de l'alimentation. C'est plein d'habitants qui se regroupent, qui mettent un budget différent. Ceux qui peuvent moins donnent 50 euros par mois, ceux qui peuvent plus donnent 150. Tout le monde repart avec 100 euros et peut acheter dans des commerces qui ont été décidés collectivement. Donc on a choisi de... Voilà, ils ont choisi de... Ils ont identifié ce qui pour eux était le bien manger. Et donc ils ont décidé de conventionner avec certains magasins. Ils ont une monnaie locale qu'ils utilisent pour aller acheter après avec ces 100 euros. Et ça, c'est super parce que ça crée vraiment de la solidarité entre habitants. Ça crée aussi une réflexion autour de ce que c'est que bien manger. Et voilà. Donc on réfléchit à un projet dans ce sens-là.
On l'a vu, beaucoup de solutions s'offrent donc. Mais jusque-là, certains se disent peut-être encore que le bio, c'est de la poudre aux yeux, que le bio, si ça vient d'ailleurs, ce n'est pas vraiment du bio, et surtout, que si ces actions sont mises en place, c'est bien parce qu'elles montrent que ce n'est pas accessible à tous. Fait réel ou cliché, dans un premier temps, Marion nous fait un état des lieux de l'agriculture biologique.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues en ce moment sur l'agriculture biologique. On a, alors la règle de base, c'est qu'il y a un cahier des charges qui, lui, est européen. D'accord. Et donc, les producteurs ont des obligations à respecter qui sont inscrites dans ce cahier des charges européen. Après, on nous pose souvent la question de « oui, mais si c'est du bio qui vient de loin, est-ce que c'est vraiment bio ?» Pour le bio qui va venir de loin, donc tout ce qui est européen, c'est uniformisé, mais tout ce qui vient d'hors Europe, il va y avoir des équivalences de cahier des charges. Donc ça, c'est aussi défini dans les règles européennes. Pour qu'un produit qui vient de l'extérieur de l'Europe soit certifié bio en Europe, il faut qu'il remplisse ses obligations, ses équivalences, en gros, de cahier des charges. Il y a quand même des règles à respecter pour que le produit soit certifié bio en France. Les autres questions qu'on va avoir, c'est notamment sur le prix du bio. On le voit en ce moment, on entend pas mal parler de crise du bio. C'est vrai que les gens, forcément, il y a une inflation un peu galopante sur les produits alimentaires. Donc les gens, forcément, l'alimentation, ça va être le premier poste de dépense qu'ils vont essayer de réduire. Par rapport au prix, donc le prix du bio peut être plus cher en fonction des lieux d'achat sur lesquels on va aller. C'est vrai que si on va en grande distribution, il y a une surmarge sur les produits bio. L'UFC Que Choisir avait fait une enquête là-dessus. Les marges sont assez importantes en grande distribution et comme la plupart des personnes vont faire leurs courses en grande distribution, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, le bio va être plus cher. Par contre, il faut quand même essayer de comparer. Si on va acheter ces produits bio, par exemple, en vente directe, sur un marché ou directement auprès d'un producteur, c'est vraiment pas plus cher. Il y avait une étude aussi qui était sortie. D'ailleurs, en ce moment, dans notre réseau, il y a plein de comparatifs de prix. Ils vont faire des relevés de prix dans les différents magasins, chez les producteurs. Et on se rend compte vraiment que le bio n'est pas plus cher en fonction des lieux d'achat.
Et bien finalement, c'est à la fois un fait réel et un cliché. Si le bio est si cher dans votre assiette, c'est parce que les grands magasins qui les vendent prennent une bonne marge dessus. Entre 83 et 149% supérieur au conventionnel, selon l'étude de l'UFC Que Choisir, sur les trois fruits et légumes les plus consommés, à savoir la pomme de terre, la tomate et la pomme. Car la différence auprès des producteurs, même s'il y en a une, n'est pas si grande.
Pareil, si on y a des petites astuces aussi là-dessus, si on va faire maison, plutôt que d'acheter des produits tout prêts, ça va être aussi moins cher d'acheter en bio. J'ai un exemple en tête sur des carottes râpées. Si on achète, il y avait une étude qui a été faite, si on achète un kilo de carottes râpées classiques en grande distribution, en fait, ça coûte 3 fois moins cher d'acheter des carottes bio et de les râper soi-même. Voilà, faire soi-même, éviter les produits tout prêts, voilà, les produits déjà transformés. Et bah, c'est aussi bon pour la santé d'ailleurs, parce que souvent les produits très transformés, il va y avoir des additifs et voilà, ils sont moins riches nutritionnellement parlant.
Alors je vais me faire un peu l'avocat du diable là-dessus, mais il y a beaucoup de gens qui en famille n'ont pas forcément de temps, des mères célibataires par exemple, qui travaillent, qui ont leurs enfants à l'école et qui n'ont pas forcément de temps de faire à manger ou d'aller faire les marchés. Quelle astuce, parce que tu dois en recevoir aussi avec vos ateliers, quelle astuce tu donnes à ces gens-là ?
Oui, tout à fait. C'est vrai que le temps, c'est la grosse question aussi. En fait, on se rend compte qu'il y a des recettes très très simples à faire qui ne prennent pas forcément beaucoup plus de temps. C'est juste une organisation différente. L'idée du défi, c'est aussi un peu de déconstruire les stéréotypes et les habitudes. Forcément, ça se fait petit à petit. Mais l'idée, ça va être voilà, d'aller vers... pour les courses, oui, c'est sûr, c'est compliqué. Il faut que ça rentre dans notre organisation et ça va se faire petit à petit. Et après, le temps de préparation, franchement, il n'est pas forcément plus long que d'ouvrir une boîte et de mettre ça dans une casserole.
Deuxième conseil, donc, cuisiner plus. Selon Marion, c'est possible. Il va juste falloir aller chercher ces petites astuces pour y arriver. C'est aussi quelque chose qui se développe de parler cuisine, que ce soit à la radio, en podcast, sur YouTube, via les réseaux sociaux, ou pour les plus réticents à la technologie, par des livres. Mais malheureusement, c'est encore peu appliqué. On a voulu savoir comment vous, étudiants, vous nourrissez, et force est de reconnaître que ce n'est pas facile pour tout le monde.
Bah, en fait, ma maman me prépare des plats le week-end, que je ramène chez moi la semaine. Okay. Donc, mais sinon, je fais des courses parce que j'aime pas cuisiner, en fait. C'est pour ça qu'elle fait ça, parce que sinon elle sait que je mange mal, en fait.
Mais j'aime bien cuisiner, donc j'essaie quand même de faire des bons petits plats, en privilégiant les ingrédients plutôt que des plats déjà faits. Mais au final, je me retrouve souvent à aller dans les mêmes magasins un peu bas de gamme, style Lidl et Aldi, pour les ingrédients.
Je fais pas de courses. J'en fais une fois par mois, et y a pas trop de plaisir. Hein. C'est plus... juste des pâtes, quoi. Et des carbos, c'est tout.
Du coup, moi, alors, je vais au marché. Et j'ai aussi mes parents qui ont un potager, donc qui me donnent des fruits et légumes gratuitement.
Moi, je rentre le week-end. Du coup, mes parents, ils me font les courses avec moi. Comme ça, c'est pratique pour rien que pour les menus, etc. Quoi.
Et bah, du coup, je pars parfois au Secours Populaire ou au Resto du Cœur. Et après, d'après ce qu'ils m'ont donné, je fais une autre liste pour voir c'est ce qu'il manque. J'aime trop le riz, je mange du riz et des œufs et du café. Au lieu d'acheter chaque jour un café, j'ai la machine chez moi et je fais des cafés.
Et donc j'essaye de faire de temps en temps des plats végétariens et quand même manger de la viande à peu près une fois par jour. Là en ce moment j'essaye de manger plus de porc parce que ça coûte moins cher.
Et mes cours, je fais pas attention à mon argent, j'ai pour acheter donc...
Bah rien, je mange des haricots verts, je mange dehors.
Alors dans beaucoup de supermarchés, on retrouve un rayon qui est en général pas très grand et pas très fourni selon à quelle heure on y va. Mais le rayon date courte, en fait, donc ça périme le lendemain ou le surlendemain. Et il y a des réductions, des fois c'est 20% ou bien 50% ou même des fois 70%. Ça peut être une bonne solution.
Il est vrai que la nouvelle génération a un palais moins éduqué et plus habitué à la nourriture industrielle ou transformée. Aussi question de flemme. Et puis, il faut reconnaître que les budgets étudiants sont de plus en plus serrés. Mais ne perdez pas espoir, ça s'apprend. Il faudra bien s'y mettre un jour, donc pourquoi ne pas commencer de suite ? En tout cas, il n'est jamais trop tard. Même Marion, qui travaille aujourd'hui dans le mieux manger et le biologique, a reconnu que quand elle était étudiante, elle contribuait à ce triste constat.
Oui, bah, je pense qu'on a tous fait pareil pendant nos études. Hein. Je peux peut-être partir sur mon exemple personnel. Hein. Moi, je mangeais exactement pareil quand j'étais étudiante. Voilà, j'avais peu de moyens. Et en fait, c'est vraiment petit à petit que je me suis rendu compte que j'avais un peu perdu le goût. J'ai redécouvert le goût des aliments en me remettant à cuisiner moi-même. Et je pense que ça, c'est vraiment un levier de, en fait, faut juste le déclic et essayer de s'y mettre. Et on se rend compte que du coup, voilà, je me suis rendu compte que je mangeais beaucoup trop salé, que le sucre, qui est ajouté dans certains produits, là je pense tout de suite aux sauces tomates que je mettais sur mes pâtes, j'y étais vraiment habituée et maintenant je ne peux plus manger, je n'aime pas manger une sauce tomate industrielle parce que je sens que c'est vraiment trop sucré pour mon goût. Mais c'est vraiment toute un travail pour réhabituer son palais en fait. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de se lancer du coup. Et au final, moi, je prends du plaisir à cuisiner, donc je pense que ça peut marcher pour tout le monde.
Est-ce que t'as des adresses à donner pour apprendre, toi, comment tu t'es débrouillé?
Alors là, ce qu'on partage souvent, ça va être des livrets de recettes de l'ADEME qui sont disponibles sur leur site. D'ailleurs, on peut en commander même en version papier. Ils ont un livret de recettes zéro déchet et ils ont un livret de recettes des quatre saisons qui est pas mal fait, qui est assez visuel avec des petits dessins. J'ai pas vraiment de compte Instagram là qui me viennent en tête. Après, c'est vrai que sur la végétalisation des plats, on a un petit peu perdu l'habitude d'utiliser. Alors, on mange toujours pas mal de céréales, mais on a perdu l'habitude d'utiliser des légumineuses dans notre alimentation. Pourtant, il y a des plats d'autres pays qui sont très connus, qu'on mange en France, mais on ne se rend pas forcément compte qu'on associe des céréales et des légumineuses. Je pense par exemple au couscous, où on va avoir de la semoule et du pois chiche. Ou alors au plat d'Amérique latine où on va avoir du riz et des haricots rouges. Voilà. Tout ça, ça va être des astuces pour diminuer ça. Alors, souvent, dans, par exemple, les plats brésiliens, on va avoir un peu de bœuf et des haricots rouges. Ça permet de diminuer la quantité de viande, donc de faire des économies et aussi pour que ce soit mieux pour notre santé et pour la planète. Et en parallèle, on va avoir notre apport de protéines qui va être compensé par les légumineuses. En fait, notre corps a besoin de... Alors, il a 22 acides aminés. Dans notre corps, il y a 8 acides aminés essentiels qu'on n'arrive pas à synthétiser nous-mêmes. Et donc, ces acides aminés vont être apportés par les protéines contenues soit dans la viande, soit par les protéines qui vont être apportées en associant les céréales et les légumineuses. Donc dans ces plats que j'ai donnés en exemple, par exemple, ça peut être aussi une soupe avec des pois cassés ou des haricots, avec des petits morceaux de pain ou des croutons qu'on va mettre dedans. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'associer les céréales et les légumineuses pour avoir cet apport d'acides aminés. Et après, on peut aussi y aller progressivement en diminuant juste la quantité de viande de ces plats. Là, je peux donner un exemple, ça va être faire un hachis parmentier, où on va diminuer un petit peu la quantité de bœuf et on va mettre à la place des lentilles ou des pois chiches. Donc au goût, ça va quasiment rien changer parce qu'on aura quand même le goût un petit peu de la viande. Et par contre, en prix, ça va être très avantageux parce que les légumineuses ont vraiment un coût très réduit. Et en termes d'apport nutritionnel, ça va être totalement équivalent.
J'espère que ces paroles vous auront donné l'envie de vous remettre à cuisiner au moins pour un temps. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les différents sites web des associations comme l'Agorae si vous êtes en déficit budgétaire et à partager vos petits tips et vos recettes pour bien manger à bas prix.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.